Bonsoir, dobry wieczór. Avant tout, je voulais dire merci à Père Nicolas et aussi à Émilie Fontac de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici, de parler à la jeunesse du diocèse de Carcassonne. Et je vais parler sur le thème que vous voyez, l'orthodoxie, la jeunesse et la culture, l'expérience de la jeunesse de l'immigration russe. Mais pour commencer, je vais dire deux, trois mots sur moi-même. Je suis le père Hildo Boss. Je suis troisième prêtre à la paroisse Saint-Nicolas du Patriarcat de Moscou à Amsterdam. Pour donner une idée, c'est une grande paroisse. Chaque dimanche, nous avons entre 200 et 300 personnes dans l'église. C'est l'église de la capitale. Et c'est une église qui a 40 ans, qui a été fondée par Mgr Antoine Blum, Mgr Antoine de Souroges. Et fidèle à sa tradition, c'est une église où nous célébrons en plusieurs langues, le russe, le slavon, le néerlandais et un petit peu l'anglais aussi. Par formation, je suis slaviste, russiste, j'ai fait des études de russe et ensuite j'ai passé 4 ans à l'Institut Saint-Serge où j'ai fait des études de théologie. Je suis prêtre maintenant depuis 5 ans, avant j'étais diacre pendant aussi 5 ans. Pendant presque plus de 10 ans, j'ai été impliqué dans le travail pan-orthodoxe de la jeunesse par la Fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe Syndesmos. Et des dernières années comme président par intérim. Ici, vous voyez la dernière assemblée à laquelle j'ai participé en 2003, où était présent aussi l'actuel patriarche Cyril de Moscou, qui dans sa jeunesse a été aussi vice-président de Syndesmos. Voilà. Je suis toujours impliqué dans le travail avec la jeunesse, principalement dans la paroisse, dans le catéchisme. Nous avons 4 groupes de catéchisme chaque semaine. Et l'été, je suis un des prêtres dans un camp orthodoxe pour les jeunes. Ici, vous voyez la bénédiction de notre camp. Ici, c'est un camp pour la jeunesse orthodoxe aux Pays-Bas et en Flandre, principalement en néerlandais. Ça, c'est la liturgie sous la tente avec notre évêque, Mgr Simon de Bruxelles. Voilà, les jeunes. Encore quelques mots sur ma famille. C'est ma femme Tania qui a fait l'école russe ici à Petel pendant un certain temps. Et nos enfants Dimitri et Marie. Voilà. Dernière chose, dans la vie quotidienne, je gagne ma vie comme interprète de conférences en cabine. Donc parfois on m'appelle interprète. Voilà, très bien. De quoi je voudrais parler avec vous aujourd'hui? C'est un thème qui est très important pour moi. C'est le travail avec les jeunes et l'héritage de ce travail en France, à Paris en particulier. C'est très bien, je suis très heureux pour le diocèse de Carcassonne qu'une association ait été fondée. C'est magnifique que vous le faites. Et c'est bien aussi de savoir que vous n'allez pas construire à partir de zéro. Il existe un héritage en France, il existe une tradition, des visions très différentes. C'est intéressant de voir à quel point nous pouvons appliquer cette expérience sur la vie d'aujourd'hui. Je vais principalement parler de deux choses. La méthode des pédagogues du passé et le rapport entre l'orthodoxie et la culture, qui est une question importante pour chacun de nous. Comment je situe mon orthodoxie par rapport à la culture nationale et la culture du monde? Alors, je vais parler de l'aide des notes, sinon je ne pourrais pas parler. N'hésitez pas à m'interrompre. Je ne veux pas faire 2 heures de monopole de la parole, donc interrompez-moi quand vous voulez. Alors, quelle méthodologie les pédagogues de l'immigration russe nous ont laissé? Alors, je donne quelques lignes de l'histoire. Avant tout, ça commence avec les jeunes eux-mêmes. Les jeunes russes venus en France après la Révolution. Des enfants qui sont venus après les traumatismes de la Révolution, de l'exil, de la pauvreté, de la vie dans un nouveau pays. Il faut les aider. Et de nombreuses personnes de l'immigration russe se sont lancées dans ce défi. Comment sauver la jeunesse russe? Comment aussi la préserver pour l'Église? et je mentionnerai quelques noms. C'est le pédagogue Basile Zenkovsky, ensuite devenu le père Basile Zenkovsky. Son assistante, peut-être vous connaissez son nom, Sophie Kolomzin, qui a écrit un livre majeur sur les jeunes dans l'église, Nasha Tserka fi Nashi Dieti, notre église et nos enfants. C'était l'assistante du père Basile. Il y avait aussi Léon Zander, un grand organisateur logistique des camps, des écoles, des instituts. Il y avait d'autres personnages dont je vais parler plus tard, des gens qui ont eu des visions différentes, parfois des conflits, mais leur héritage à chacun mérite d'être connu. Alors, je pense que la première leçon que nous apprend la pédagogie de l'immigration, c'est des questions de méthode. Si nous voulons être une association de jeunes dans l'Église, qu'est-ce qu'on veut faire ? Pourquoi ? Et je pense que la première leçon est que le père Zenkovsky et d'autres pédagogues ont systématiquement travaillé les questions suivantes, très basiques, essentielles pour chaque activité humaine. Si on veut faire une association de jeunes, pourquoi ? Pour qui ? C'est qui ces jeunes ? Et aussi, très important, de quoi ils ont besoin ? Nous n'allons pas faire une activité parce qu'il faut faire une activité. Nous allons faire une activité parce que nous voulons servir l'Église et ses fidèles. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire et comment il faut le faire ? Et parfois, j'ajouterai aussi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Parce que quand nous travaillons avec les jeunes dans l'Église, nous travaillons avec des gens vulnérables, des gens qui méritent notre attention. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, l'immigration russe a pris cette tâche très sérieuse. Et depuis les années 20, les meilleurs pédagogues et des pédagogues religieux comme séculiers se sont pris de connaître cette jeunesse russe de l'immigration. À Prague, vous voyez une photographie de l'Institut pédagogique russe en 1925 à Prague. Vous voyez quelques très grands noms de la pédagogie russe. À cette époque, partout dans la diaspora, il y a des centaines d'écoles russes pour ces enfants. Il y a aussi, à partir de 1927, à Paris, le cabinet pédagogique pour le travail avec la jeunesse orthodoxe, qui veut être un centre de recherche sur la jeunesse orthodoxe et ses besoins. Et une première chose qui a été faite par tout ce groupe de pédagogues, c'était une étude. Nous voulons aider la jeunesse, nous allons faire une étude. Et on a invité 2500 enfants russes partout en Europe d'écrire des textes sur ce qu'ils avaient vécu depuis leur départ de la Russie jusqu'à l'arrivée en France. Et si vous lisez le russe, je vous recommande ce livre, je vais le montrer dans un instant. La deuxième chose qu'ils faisaient, c'était d'étudier les sources. Les pédagogues de leur temps, Montessori, Jung, Piaget, de vraiment connaître ce qui se passe dans la science. Et si vous voyez ce livre, Deti Ruske Immigratsi, c'est un livre c'est un livre bouleversant, parce que en le lisant, vous comprenez à quel point ces enfants, ces adolescents sont passés par des horreurs et ont été vraiment endommagés dans leur âme par la guerre civile, par la violence, par la déprivation et par le déracinement culturel. Très important. Et je vous donne quelques conclusions de cette première étude parmi l'immigration, la jeunesse de l'immigration. Un fait assez inquiétant. Là, on parle de 1929, 10 ans après la Révolution, la guerre civile. 60% des jeunes se disent pas très intéressés par l'Église. Beaucoup d'enfants indiquent aussi que pour eux, la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Vous savez que dans la Russie tsariste, la religion, c'était un sujet comme la mathématique, comme l'histoire. Et dans la littérature russe, on trouve pas mal d'exemples de l'ennui que les élèves avaient pendant ces cours. Là, ces jeunes ne voulaient plus d'une religion comme tout simplement un sujet parmi les autres. Ils avaient, après toute cette fragmentation de leur vie, de leur monde qui avait disparu, le soif de quelque chose d'universel, de cohérent. Et la soif de trouver dans la foi, non pas seulement un petit élément de la vie, quelque chose que nous faisons le dimanche et les fêtes, mais quelque chose qui peut englober toute la vie. Et derrière, il y a une pensée qui a commencé même à naître en Russie avant la Révolution, dans les milieux de l'Église et les milieux des intellectuels, que si vraiment le Christ est tout pour nous, est le cœur de notre vie, le christianisme peut transformer le monde entier. Et le terme russe pour cela a été la votserkovlenie, la ecclésialisation de la vie. Non pas seulement ma liturgie du dimanche, chaque élément de ma vie, la façon dont je suis en famille, la façon dont je travaille, j'étudie, peut être touché par l'Église et transfiguré, transformé par l'Église. Et voilà quelques de ces conclusions qui mènent des penseurs à des conclusions. Quel est le but de notre travail? Et je vous donne deux citations de l'époque. Nicolas Berdiaïev, éminent fidèle de votre diocèse. Je ne vais pas lire le texte, mais vous voyez cette soif d'une cohérence intérieure, une «цельность жизни», une soif d'une vie qui englobe tout, la foi et tout le reste. Et un petit peu plus tard, nous voyons une autre citation de Zinkovski qui parle aussi du travail avec ces âmes meurtries. Il faut les rapprocher avec l'Église, mais aussi il faut les guérir. Et il parle d'un thème que nous entendons souvent en Russie aussi de nos jours, la mission intérieure. Il y a beaucoup d'orthodoxes baptisés qui n'ont jamais été véritablement inclus dans la vie de l'Église. Il y a beaucoup d'orthodoxes de nom. Il y a quelque chose à faire. Alors maintenant, je vais un petit peu vous taquiner. Ce soir, je ne veux pas seulement parler, je vais vous faire travailler un peu aussi. Et si c'était vous, ces pionniers, si c'était vous, ces gens dans les années 20, qui ont décidé de faire quelque chose avec ces enfants qui sont là et qui ont besoin de quelque chose, comment vous pourriez répondre à ces mêmes questions? Quoi? Qui? Pourquoi? Alors, je pense que nous pouvons définir un nombre de sources qui peuvent vous aider. Et je suis passé par là. Moi, je suis jeune converti. Un jour, on m'a demandé, aide-nous avec les jeunes, s'il te plaît. Je n'avais aucune idée qu'est-ce que c'est. Et voilà, j'étais aussi obligé de chercher des réponses à ces questions. Quoi, qui, pourquoi? Et je vais vous donner tout simplement une liste de sources que nous pouvons consulter pour nous inspirer pour le travail avec les jeunes. Et c'est une liste, évidemment, l'Écriture sainte qui avant tout nous rappelle que le travail avec les jeunes n'est pas une option, n'est pas un choix. Le Christ est très clair sur la place qu'il donne aux enfants quand il pose les enfants auprès de lui et il dit que celui qui empêche les enfants à venir à moi aura un mauvais sort dans le royaume des cieux. Il dit que ce sera mieux pour lui d'être jeté dans l'eau avec une grosse pierre autour du cou. Les enfants sont un élément clé dans la foi. Plus que ça, l'Église orthodoxe est différente de toutes les autres confessions chrétiennes par le fait que depuis le baptême, l'enfant est chrismé, reçoit la communion et participe complètement à la vie de l'Église. Dans l'Église catholique, on reçoit la communion qu'à partir de 7 ans. Dans les églises protestantes, en général, à partir de 13-14 ans, on fait une confession de foi et on est inclus dans la communauté. Chez les orthodoxes, la définition d'un membre de l'Église, c'est que tu es baptisé, chrismé et que tu communies, ce qui est le cas de nos enfants. Alors, c'est le deuxième point sur lequel je veux m'arrêter un petit peu plus, notre expérience personnelle. Bien sûr, chaque personne est différente. Mais chacun de nous a été jeune, il faut le dire. Et donc chacun de nous, pour répondre à ces questions, peut puiser dans sa propre expérience. Et c'est ça que je veux essayer de faire maintenant avec vous. Voilà, devant nous, ces trois questions du travail avec les jeunes. Et notons la chose suivante. Nous sommes ce soir à Paris, dans un local. Vous êtes venus ce soir pour parler de l'Église. Il y a 50 000 choses à faire dehors, mais vous êtes venu ce soir ici. Vous êtes jeune. Ça veut dire que vous avez fait un choix ce soir par rapport à vous-même et l'Église. Il y a quelques années, j'étais à une réunion où on a invité des jeunes adultes de différentes confessions de parler de la question suivante. Pourquoi es-tu resté à l'église? C'était des jeunes de 20 ans à peu près qui ont parlé de manière magnifique. Et une question très importante, vous connaissez sans doute des jeunes de votre âge qui étaient dans l'église, qui n'y sont plus, ou pas trop. Et donc c'est pour ça que je vais vous demander, chacun de vous, de s'arrêter maintenant une minute, de prendre un bout de papier, et de noter pour vous-même, pourquoi suis-je resté à l'église? Parce que beaucoup commencent avec cette question. J'ai préparé un bout de papier et un stylo. Attends, Nicolas, et vous aussi, hein? La question est, pourquoi suis-je resté à l'église? Voilà, faites votre c'est simple.
Nicolas aussi,
ça m'intéresse aussi, votre réponse. Et chacun ne va pas être demandé de lire sa réponse, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous.
Pourquoi est-ce qu'on est resté dans l'église?
Voilà,
en passant de la jeunesse à l'état.
Voilà, vous déjà à cet âge, là c'est des jeunes qui sont ce soir ici, ils ne sont pas au cinéma, ils sont venus, donc. C'est une question très importante, c'est un choix. Vous avez une minute.
Et combien de lignes?
C'est complètement à vous. Réfléchissez un peu. Moi aussi, je vais le faire. Pourquoi je suis resté à l'église? Oui. Non, почему я в своей жизни остался, осталась в церкви? Не сегодня. Non, в церкви. Je veux dire, pourquoi je suis dans ma vie? Okay. Почему в своей жизни я остался в церкви? Вот. Прошу всех. Всех. Конечно, это для вас. C'est pour vous-même. On ne va pas le donner à quelqu'un, on ne va pas le partager avec quelqu'un. C'est pour vous-même. Je vous donne encore 30 secondes. C'est pas la peine. Non, c'est pas. Gardez-le. C'est pour vous. C'est pour vous. Voilà. Maintenant, je vous demande de faire la chose suivante. Je vous demande de trouver quelqu'un dans l'assistance que vous ne connaissez pas et qui parle la même langue que vous et expliquer en une minute votre réponse et mutuellement. Je vous donne quelques minutes à faire ça. Trouvez quelqu'un dans la salle. Найдите кого-нибудь в зале, кого вы не знаете, и расскажите ему вкратце свой ответ и послушайте его. Вот. Vous avez quelques minutes pour le faire. Trouvez quelqu'un. Et racontez.
On ne connaît pas du tout.
Quelque chose de nous, quelqu'un de nouveau. Oh. Oh. tous les deux, un petit groupe de deux personnes. Qui ont vraiment remarqué quelque chose dans ce qu'ils ont entendu. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un a été frappé par ce qu'il a entendu par son voisin? Alors moi je vais commencer. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Alina m'a dit en fait que c'est ici qu'elle s'est rapprochée de l'Église, parce qu'elle a trouvé quelque chose ici dont elle avait beaucoup besoin. Donc c'est voilà, vous étiez dans l'Église, mais grâce à l'exil, en quelque sorte, vous êtes rapproché de l'Église. Alors deux, trois personnes, est-ce que quelque chose que vous voudriez partager avec nous?
Peut-être qu'il faudrait distinguer le fait d'être dans l'Église, d'avoir été baptisé, d'y aller le samedi, le dimanche de temps en temps,
oui,
à Pâques, et le fait d'une conversion personnelle avec une relation au Christ. Ça, c'est deux choses distinctes. Il faut être né dans l'Église
tout à
et
nous
y retourner d'une manière...
Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça
change. Moi, en fait, ce qui m'étonne toujours, c'est... les gens qui ont fait la démarche un peu tout seuls, qui sont nés de parents athées, de gens finalement à qui on n'a pas appris la religion dans l'enfance et qui finalement sont allés, je trouve que le travail est doublement difficile parce que moi je suis né dans une famille chrétienne, c'est un peu une habitude, et je suis toujours un peu étonné, émerveillé par les gens qui totalement français ou d'origine lointaine russe qui vont à l'orthodoxie parce que en fait c'est difficile parce que l'orthodoxie mon ami Victor ne sera pas d'accord avec moi, mais l'orthodoxie n'est pas vraiment française, donc c'est difficile de faire le pas pour un occidental d'aller dans une culture orientale.
Oui, voilà. Alors quelqu'un d'autre encore quelque chose?
Oui. Les souvenirs de la joie, des commencements de la joie divine après les offices. J'étais petit au camp de la Sèvre, par exemple, peut-être que les offices me paraissaient longs, je ne comprenais pas. Et quand je ressentais, j'avais une joie, une petite joie à l'intérieur, une chaleur que je ne comprenais pas, mais que je n'ai jamais retrouvée. Il y avait aussi des chants quand même avec le psaume que j'aimais. Et ça m'avait marqué. Donc je pense qu'il y avait en moi une soif de retrouver ça, même si je ne connaissais pas le Christ, mais plus le Père. Et il y a aussi le fait que ces camps de jeunes m'ont quand même apporté notre Père, la prière. Et depuis, grâce au camp, même si j'avais souffert dans les atmosphères de jeunes, des choses comme ça, depuis cette expérience, je n'avais pas manqué un seul soir pour prier le soir au moins notre Père. Donc il y avait ça. Ensuite, quand moi je suis revenu à l'église dans la jeunesse orthodoxe, à la fin de l'adolescence, c'est l'amitié, ce qui m'a marqué, c'est l'amitié en Christ dans le pèlerinage. L'amitié, l'atmosphère d'amitié, mais autour du Christ. Ça,
oui.
C'est
profondément marqué. D'accord. Alors, je vous arrête là parce que. Non, c'est très bien, mais.
Je dis ça parce qu'en fait, on est frustrés, on ne sait pas raconter.
Ben voilà, mais on est là pour ça. Et moi, je n'ai pas envie de monopoliser toute la soirée, donc on aura un petit peu de temps pour se parler aussi. Vous aviez quelque chose, une remarque à faire
La petite remarque, en fait, c'est. Notre père disait sur pourquoi les gens sont restés dans l'église. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des amis catholiques. Ex-catholiques, et il y en a même qui ont fait la confirmation, etc. Ils m'ont tous expliqué pourquoi ils n'y sont pas restés, parce que je me suis intéressé. Et alors, ce qui est frappant, c'est que tous, sans exception, ils disent, alors sur 5 ou 6 cas, ils disent qu'ils ont quitté l'Église et la foi parce qu'il y avait un côté moralisateur et... culpabilisateur. Voilà, le mot qui revenait tout le temps, c'est culpabilisateur. Donc là, j'en déduis que comment il faut ne pas faire.
Voilà.
Chercher à culpabiliser.
Voilà. Merci. J'étais très content que vous participiez de cette manière. Et maintenant, revenons à la méthodologie pédagogique, parce que en fait, cette petite expérience que j'ai faite avec vous, c'est une méthode pédagogique que vous pouvez utiliser si un jour vous travaillez avec les jeunes dans les camps, dans le catéchisme. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vous ai engagé. Nous ne sommes plus dans un rapport où c'est juste quelqu'un qui parle et quelqu'un d'autre qui écoute, comme à l'université. Vous vous êtes parlé avec vous-même, vous êtes rentré dans votre vécu personnel et vous avez réfléchi, vous avez partagé. Et je pense que chacun a puisé quelque chose d'utile, quelque chose dont il se souviendra après, pour dire, tiens, si moi j'ai reçu ça dans l'église, et si cela m'a sauvé, ou m'a gardé, ou m'a ramené à l'église, c'est quelque chose qui pourrait être précieux aussi pour les autres. Et dans ces conférences des gens qui parlaient du fait pourquoi ils étaient restés membres de l'église, chacun... sans exception, a dit ces deux choses. On m'a engagé, on m'a même demandé de réfléchir, on m'a forcé de réfléchir. Et par exemple, nous avons un groupe d'adolescents dans ma paroisse, et chacun a un petit carnet. Et quand nous faisons des études bibliques, ils font des petites notes. C'est leur carnet, on les garde sous clé, on ne le lit pas, et finalement, ce n'est pas très important. Mais on les force à réfléchir, à exprimer, et ça reste. Donc, ce sont des choses que vous pouvez... mettre dans la poche et appliquer un jour, c'est utile. Parce que si ça vous a aidé, ça pourrait être aider les autres. Voilà, retournons aux sources. Les autres, je pense, sont assez logiques. Déjà, chose assez évidente, si vous voulez travailler avec les jeunes, si vous voulez savoir quels sont leurs besoins, on peut les demander. On peut demander aux jeunes, en fait, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Parfois on oublie, on fait un programme de travail et on ne demande pas aux jeunes si ça convient. Alors les autres sont évidents, sauf le dernier point. Si vous voulez connaître les besoins des jeunes, étudiez le marketing. Parce que le marketing étudie avec les meilleurs psychologues du monde les choses dont les jeunes ont envie et besoin pour ensuite leur proposer quelque chose d'autre. Et très souvent, et je vais vous montrer quelques exemples dans un instant, derrière la publicité, nous pouvons trouver des grandes vérités sur les vrais besoins. La publicité offre quelque chose d'autre, un remplacement, un ersatz. Mais la méthode est très utile, vous allez voir dans un instant. Bon. Je pense, je veux maintenant partager avec vous quelques de mes conclusions sur des aspects du travail avec les jeunes. Et c'est tout à fait amateur. Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un pédagogue. Et je pense que si un jour notre Église du Patriarcat pourra faire quelque chose d'utile dans ces terres, ce serait de répéter cette expérience, faire une étude sociologique parmi la nouvelle jeunesse d'origine russe, d'origine en Europe occidentale, pour connaître comment elle vit sa situation. Vous venez d'arriver, comment vous vivez tout ça? Je pense que c'est un... Bon, si nous voulons travailler avec les jeunes, si nous voulons les garder pour l'Église, la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que le monde dans lequel ils vivent et la culture, peu importe, russe, française, la culture est très différente de celle de l'Église et des sociétés traditionnelles. Et si nous voulons travailler avec les jeunes, nous devons faire le pont, le lien entre le vécu de l'Église et ce monde dans lequel ils vivent, si nous le voulons ou pas. Quelques éléments. Depuis la nuit des temps, l'homme se trouve tout petit devant un très grand Dieu. Dans toute religion, dans toutes les cultures, le petit homme devant la nature, les forces. Depuis quelques générations, ce rapport a changé complètement. Ça, c'est le cadre de référence de l'Église. Nous implorons Dieu, nous demandons d'être sauvés. Nous voulons être sauvés du feu éternel, du jugement. Nous demandons son aide. De nos jours, c'est l'homme qui s'est posé en Dieu et il instrumentalise la religion pour ses besoins. Le shopping religieux, si vous voulez. L'homme prend la religion, voilà, ici une image... Imaginez quand même, c'est un objet religieux comme publicité pour un produit. On prend ce qui nous plaît, pas nous, pas. C'est un phénomène très répandu, et même les gens n'ont plus du tout peur de se moquer de la religion. Bon, ça dépend des religions, les gens ont peur de se moquer de l'islam, mais le Christ, ça c'est dans une boutique quelconque. Donc, le rapport Dieu-homme a complètement changé. L'homme, maintenant, se pose en centre de l'univers et choisit la religion qui le convient ou les éléments qui conviennent. J'aime beaucoup le chant orthodoxe, mais le jeûne, non merci. Voilà, là, je vais vous donner quelques exemples de cet hédonisme omniprésent. On le voit dans la publicité. Alors, le prochain, c'est un de mes préférés. Voilà. Tu es digne de tout, donc achète beaucoup de choses parce que tu es digne. C'est partout dans la publicité. C'est aussi, je trouve ça magnifique, c'est une illusion totale. Demain je peux être mort. Comment je détermine l'avenir de ma peau? Mais c'est ça, cette illusion qui nous est imposée. Toi, tu es omniprésent, omnipotent, tu peux tout. Alors ça, c'est la meilleure, j'ai vu à l'aéroport récemment. Te tromper la mort, voilà, faites un test et tout va bien. Si on compare ça à la perspective biblique de Dieu qui est seigneur de la vie et de la mort, c'est dans Deutéronome, dans les hymnes bibliques, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre. Donc c'est important que la société ait dans ce rapport avec la religion, avec l'homme, un grand homme, un petit Dieu. Et regardez d'autres moments, des vecteurs clés de la vie. Dans l'Église, la conception, c'est quelque chose de mystérieux, de sacré. Nous fêtons à l'Église des conceptions. Nous avons la fête de la conception, Zachat, de la Mère de Dieu, de Jean-Baptiste, d'autres saints. C'est quelque chose de sacré et c'est quelque chose de voué à Dieu. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la conception, c'est quelque chose que nous avons sous un contrôle complet, qui se passe comme nous le voulons, quand nous le voulons, et tant de gens qui disent, mais voilà, j'ai le droit d'avoir un bébé avec toutes les méthodes scientifiques à ma disposition. De nouveau, l'homme se trouve très grand, Dieu prend la deuxième place. Pareil pour la naissance, que nous fêtons à l'Église de nouveau la nativité des saints, de la Mère de Dieu, du Christ, quelque chose complètement soumis maintenant au pouvoir de l'homme. Vous savez qu'en Amérique, elle est maintenant la norme de planifier la date de naissance, parce que de toutes les façons c'est une césarienne, donc on le planifie, on le fait, on est dans un rapport complètement différent. Voilà, la famille, chose très importante. Voilà, belle image. Regardez l'office orthodoxe du mariage. Il y a un concept, une conception de la famille comme un lieu de vie, un lieu de vie commune, de pardon. Ben, la réalité de beaucoup, beaucoup d'enfants est différente. En France, 45% des mariages terminent en divorce. Il y a 1,5 million au moins d'enfants qui sont dans les familles recomposées. Des parents surchargés, des familles compliquées, recomposées, re-recomposées, la vie familiale est très différente du concept familial de l'Église. Une maison, c'est quelque chose de presque sacré aussi, c'est un lieu de prière, de vie, de mort, de... vous connaissez la maison d'ailleurs? Quelqu'un a reconnu? Père Nicolas peut-être. C'est la maison du père Stephen Hedley à Vézelay. Belle maison. Voilà. De nouveau, la réalité de la plupart des gens est un petit peu différente. Et pas seulement nous sommes les uns sur les autres, mais pour beaucoup de gens, la maison n'est plus du tout un lieu de partage. Un lieu. Dans les appartements en Amérique, en général, il n'y a plus de table où on mange. Il n'y a plus de cuisine parce qu'on mange du takeaway tout le temps. La table, qui est dans les maisons russes, c'est quelque chose de sacré. C'est sur la table on pose le cercueil, par exemple. Si vous allez dans une maison russe et que vous posez votre sac sur la table comme ça, sans respect, ça va être très mal pris. Là, on est très loin de cela. Autre chose encore, la place de l'homme dans la création. Dans la Bible, Adam a été placé dans le paradis comme son gardien, comme son roi. Il a une responsabilité et il en profite, il l'aime. Mais pour notre société moderne, c'est surtout une source de revenus, pour ne pas dire de pillage. Mais aussi, et ça me frappe beaucoup avec les jeunes, quelque chose qui est moins intéressant qu'une réalité créée par l'homme, virtuelle. Vous connaissez tous la scène où on est dans la maison à la campagne et les parents sont en train de faire du feu, de couper du bois et les enfants sont à l'intérieur en train de jouer. Ce monde virtuel est plus intéressant. Et pour moi, une belle image de ça, ces jeux très sympathiques d'ailleurs, des jeux de civilisation où finalement je suis en train de créer mon propre monde. De nouveau, Dieu est repoussé au dernier plan. La nourriture, de nouveau, chose sacrée presque pour nous. La nourriture est donnée par Dieu pour nous nourrir, pour nous donner la vie, pour nous donner la santé. Et chose énorme, Dieu lui-même se donne à nous en nourriture. Je ne sais pas si vous connaissez la ligne de Surubin ou le remplaçant du Samedi Saint. C'est Nigne Sile Nibesne S Nami. Невидимо служат, и ensuite царь, царствующих и Господь, господствующих приходится закладиться в снедь верным. И вьется le roi des rois et le seigneur des seigneurs vient pour se donner à nous en nourriture. La nourriture, ce n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très important. De nouveau, une source de plaisir immédiat, de sans respect, sans prière. Et finalement, ça donne une humanité tout à fait différente. Excusez-moi, c'est vrai, c'est tout simplement vrai. C'est le monde dans lequel nous vivons. Notre Église est une Église de communion et de communication, de unité. Le plus intimement dans la communion, dans le sein et le sang et le corps du Christ. De nouveau aussi, la communication passe dans ce monde, mode beaucoup plus virtuel, dans un mode hédoniste. Et Facebook, vous avez invité les gens pour Facebook, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il faut fermer tout ça, mais il faut se rendre compte. Et là, cette image est très intéressante. Comme interprète, il y a quelques années, j'ai traduit pour Nokia, à leur grande réunion des chefs de marketing. Et bien voilà. Ils ont expliqué une chose très simple. Ils ont dit, vous savez, aujourd'hui, la plupart des enfants sont issus, ou beaucoup d'enfants sont issus de familles brisées. Pour un enfant, c'est toujours assez lourd parce qu'il va bouger entre deux mondes, le monde de papa et le monde de maman, en général. On est un petit peu partagé. et on se sent seul. Et de quoi ils ont très envie, ben, c'est d'être en connexion. Si je sais qu'à n'importe quel moment, je peux me connecter à mes amis, partager, ça c'est dans ces Facebook, exprimez-vous, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ah, je peux dire maintenant que je suis à une soirée à l'église russe. Ça console. Et bien voilà, Nokia, Connecting People, c'est leur slogan, c'est ça leur ressource. Il y a un besoin profond dans ces enfants d'être en communion et en communication, mais alors on vend Facebook. Le jeu, un des derniers points que je comparerais, traditionnellement, et Zenkovski, le pédagogue, a beaucoup parlé du fait que nous apprenons par le jeu. Le jeu, c'est très important. Nous apprenons à participer, à perdre, à gagner dignement, à partager. Nous apprenons aussi à sentir le terrain, de nouveau, la nature. On se salit, on est dehors. Mais ça aussi, ça passe de plus en plus dans la solitude et dans le virtuel. Maintenant, je vous ai décrit une situation assez difficile. Vous voyez que les jeunes aujourd'hui sont dans un monde, s'ils le veulent ou pas, et à Moscou, à Athènes, à Amsterdam, Paris, c'est la même chose. Comment nous pouvons les aider? Parce que c'est clair que tout cela est très loin de la vocation de l'homme, d'être, comme dit saint Irénée de Lyon, d'être pleinement en vie devant Dieu, enraciné dans l'Église. Donc voilà, nous voyons à partir de cela des choses que j'ai déjà dites. Il y a quelques besoins des jeunes que nous pouvons identifier aujourd'hui. La soif d'être connecté et enraciné, parce que toute cette réalité virtuelle, elle est très déracinée, elle est très virtuelle. Il y a une énorme soif d'authenticité. Tout ça, j'ai tiré des manuels de marketing, de psychologie, de honnêteté, parce qu'ils savent que cette commerce est un mensonge. Ils savent que ce n'est pas d'un tweak qu'ils ont besoin pour être heureux. Ils savent. Et ils ont besoin des choses vraies. Même s'ils se définissent, et ça aussi, ça vient de la littérature, beaucoup de jeunes aujourd'hui vont vous dire « je suis un consommateur ». Même si vous me demandez qui je suis, j'achète des choses et ça me fait plaisir. D'autres besoins. Les jeunes sont intéressés par la question de la société, mais ils ne sont pas du tout intéressés par les structures. Et si vous regardez la statistique des syndicats, des associations de jeunes, des associations sportives, c'est assez impressionnant. Les jeunes n'ont pas envie de s'engager dans des structures. Par contre, vous organisez une soirée, c'est sur Facebook, j'y vais, pas de problème. Mais c'est des structures n'intéressent pas du tout les jeunes. Et une autre chose, beaucoup de jeunes ont des identités multiples. Ben voilà, là tu as un côté russe, un côté français, beaucoup parmi vous, mais on peut être aussi, avant double identité, j'ai le monde de mon père et de ma mère, c'est deux mondes différents. Il existe beaucoup de formes de double identité dans notre société, et il y a très peu de gens qui rentrent dans une seule moule. Et là, qu'est-ce que l'Église, à mon avis, peut donner pour répondre à ces besoins? Et là, je pense que l'Église a beaucoup de choses à donner. Voilà, les jeunes ont besoin d'être enracinés, mais l'Église propose la racine la plus profonde, qui est Dieu, dans la communauté de l'Église. Nous sommes entourés par un culte hédonisme, mon confort, mon plaisir, mon tout. Le Christ nous propose une autre image qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus vraie. Le Christ lave les pieds de ses disciples. Il nous montre qu'il faut faire la même chose. Et vous avez vu peut-être récemment le pape de Rome a répété ce geste et ça a été repris par tous les médias parce que c'est une image très forte. On en revient à des images. Les jeunes ont besoin de quelque chose de vrai, parce que tout est faux. Mais dans l'Église, heureusement, nous avons des personnalités vivantes et mortes. Là, je vous montre quatre personnes. Le père Johann Christian, qui est Monsieur Anastasius, l'évêque d'Albanie, Monsieur Antoine de Souroge et le père Paisios, quatre géants de notre temps. Ces gens sont en vie. Et j'ai vu le miracle quand un jeune rencontre une telle personne et est transfiguré. Nous avons quelque chose à leur proposer. nous avons des vies authentiques. Les jeunes veulent des choses vraies, mais nous avons le Christ qui lui-même est la vérité. Et ce n'est pas l'Église qui les déclare, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Voilà, les jeunes ont envie, ont besoin d'être tout le temps en ligne. Et faites l'expérience pour vous, coupez votre téléphone pendant 3 jours, vous allez voir des symptômes de drogués. Hein. Oui, c'est vrai. Et bien voilà, l'Église propose une vraie communion. Et c'est par les sacrements, mais c'est aussi par la prière que nous pouvons réellement nous connecter. Il est très important qu'un chrétien de se demander, est-ce que je suis capable de couper mon téléphone et de prier? Et sinon, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Les jeunes veulent de la liberté, mais l'Église propose une libération très très importante du péché. Le péché est une réalité existentielle. Parfois, comme prêtre, je rencontre des gens qui n'ont rien en commun avec l'Église et qui souffrent de leur péché, et qui savent qu'ils ont des péchés. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais ils savent que les péchés existent. Mais l'Église nous libère des péchés. Les jeunes se font des soucis sur l'avenir de la planète. Ils sont pas que dans leur hédonisme, ils se font des soucis. Et là aussi, l'Église a des réponses. L'Église est une Église du cosmos. Dans l'Église, on retrouve toute la création, le bois pour les icônes, l'encens, les fruits qu'on bénit, le pain, le vin, l'eau, l'huile. Et voilà, tout ça est sanctifié dans l'Église et est proposé en sacrifice à Dieu. Ça, c'est notre camp aussi aux Pays-Bas, pour la transfiguration, la bénédiction des fruits. Les jeunes ne veulent pas des structures, mais proposons-leur l'Église comme une communauté. On a déjà parlé tout à l'heure, c'était vous là, cette amitié autour du Christ. Les jeunes ne veulent pas percevoir l'Église comme une structure. Les jeunes veulent vivre une communauté dans l'Église. Si une association de jeunes arrive à être ça, vous donnez quelque chose de très précieux aux jeunes. Les jeunes adorent les images. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis toutes ces images ce soir, parce que je me suis dit, c'est plus sympa pour vous. Qui a des meilleures images à proposer que l'Église orthodoxe? Vous avez parlé tout à l'heure des offices. Notre vie liturgique, nos icônes ont une imagerie. La nuit de Pâques, c'est quelque chose que personne n'oublie. Et l'Église, là, c'est des choses que nous avons dans la poche, que nous pouvons donner à ces jeunes comme quelque chose de vrai à la place de quelque chose de faux. Et donc voilà, je vous fais une petite liste des choses qu'à mon avis, l'Église pourrait et doit proposer à la jeunesse, à chaque fidèle. Ça ne marche pas toujours, l'Église, on ne peut pas tout proposer, mais tout ça est présent dans notre Église, et si nous voyons que les jeunes en ont besoin, on peut leur donner ça. Et ici, pour clore ce chapitre de ma présentation, j'ai une citation du père Zinkowski, c'est 1937, ça pourrait être écrit aujourd'hui. Nous voyons, nous devons reconnaître que l'orthodoxie traverse une époque de sécularisme culturel, non par une lutte contre l'Église, mais par indifférence envers elle. Nous devons chercher nous-mêmes des nouvelles voies de vie en lien avec notre conception orthodoxe du monde, une culture orthodoxe nouvelle qui devrait préserver en elle toute la richesse de la tradition ancienne. Et ça a été dans l'émigration une grande idée. Nous devons créer une culture orthodoxe. Il peut y avoir une littérature, une action sociale, etc. En même temps, il faut avouer que dans la tête du père Zinkowski, cette culture, c'était quand même une fois rentré en Russie. Voilà. Une fois rentré en Russie. Son but, c'était quand même avant tout de maintenir quelque chose pour le jour où le communisme disparaîtra et on pourra reconstruire une Russie nouvelle. Mais comment nous devons faire? Et ici, ce soir, nous avons déjà des gens avec des origines très différentes. Voilà, tu disais, l'orthodoxie n'est pas complètement française. Chacun de nous a une identité nationale, ou peut-être 2 ou 3. Chacun de nous cherche des réponses à cette question, comment ma culture nationale se rapporte avec ma foi. ma foi orthodoxe. Moi, je suis hollandais de souche, en effet. C'est pas toujours évident d'être orthodoxe. Il y a des différences. Et là, avant de parler de cette question-là et des réponses qui ont été trouvées dans l'histoire, de nouveau, je vais vous engager un petit peu. Ça va être plus facile cette fois-ci. Levez la main si vous êtes d'accord et je vais vous montrer quelques petites phrases. Et je vous demande de lever la main si vous êtes d'accord avec cela, si ça vous concerne. Et la première question, est-ce que vous pensez que vos enfants vivront en France ? La deuxième question, est-ce que vos enfants parleront le russe ? Est-ce que vos enfants seront orthodoxes ? Et qu'est-ce qui se passe avec les petits-enfants ? Est-ce que vos petits-enfants parleront russe ?
C'est un peu prématuré.
Tout ça est hypothétique. Voilà. Est-ce que vos petits-enfants seront orthodoxes ? Voilà. Deux dernières questions. Est-ce que l'Église orthodoxe a quelque chose à dire à la France ? Et dernière question, est-ce que la France a quelque chose à dire à l'Église orthodoxe ? Voilà. De nouveau, je vous ai engagé. Si vous faites une réunion avec les adolescents, il y a une méthode qui est très sympathique, d'ailleurs avec les adultes aussi, vous mettez tout le monde dans un cercle ou sur une ligne, et sur ces questions, par exemple sur les dilemmes éthiques, ceux qui sont d'accord, ils font un pas en avant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils font un pas en arrière, et ça montre visuellement la position de la salle. Ça marche très bien, surtout avec des questions éthiques. Voilà. Bon, je pense, c'est le dernier thème dont je parlerai aujourd'hui, le rapport entre notre identité nationale et notre identité religieuse. Je pense que chacun de nous doit regarder cette question en face. Voilà, vous êtes en France depuis longtemps. Comment ça va se développer, votre russité et votre orthodoxie ? Et surtout, si un jour cette russité se perd dans les enfants, dans les petits-enfants, qu'est-ce qui se passera avec la foi ? Est-ce que c'est des choses qui ne font pas qu'elle ? Donc si je perds la foi, la culture, tant pis pour la foi. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour cette orthodoxie qui ne sera pas tout à fait russe ? Et que faire avec des gens comme moi ou comme d'autres qui sont venus de la France en recherche de l'orthodoxie ? Vous voudrais surtout vous dire que chacun trouve sa réponse à cette question, chaque famille, chaque personne, et que dans l'Église, je ne vois pas comment nous devrions privilégier une position à l'autre. Parce que c'est vrai que l'orthodoxie est très liée avec certaines cultures, parce qu'elle fait partie de ces cultures depuis très très longtemps. Et en même temps, si nous disons qu'il faut appartenir à ces cultures pour être orthodoxe, il y a un problème de hiérarchie parce que ces cultures ont un jour été baptisées. Voilà. Donc, et c'est dans ces murs de cette église que certaines réponses ont été cherchées d'une manière, je dirais, très audacieuse, et je pense que ça, c'est quelque chose que vous devez quand même connaître. Et il y a un spectre, je dirais, de positions sur cette question. Il y a eu ceux dans l'émigration russe qui disait, c'est très simple, nous devons toujours garder la tradition russe et la tradition orthodoxe, point final, c'est ça.
Qui ça?
Dans l'émigration russe, il y a des gens qui disent tout simplement, il faut rester russe, il faut rester orthodoxe, question close. Ici, vous voyez un petit groupe de gens, Vladimir Lossky, les photos sont partout en bas, mais aussi Eugraf et Maxime Kovalevski. Il y avait des personnes comme Monsieur Antoine Blum, le futur André Blum à l'époque, comme Nicolas Paltaratsky. Un petit groupe de jeunes russes qui allaient à cette église, qui ont très consciemment décidé de rester avec le patriarcat de Moscou quand il y a eu les schismes, mais qui se sont intéressés à l'Occident. Ils se sont dit, notre Église a quelque chose à dire à l'Occident. Notre Église peut porter une lumière à l'Occident. Et ce groupe-là, en 1924, fonde une confrérie, une association, Saint Photius, un nom d'un grand patriarche orthodoxe défendeur de la foi, parce qu'il voulait maintenir la foi orthodoxe pure. Il ne parlait pas d'un dialogue où finalement tout disparaît dans les compromis. Et ils ont publié un manifesto, un manifeste que je trouve très intéressant, certainement pensant que ce sont des jeunes qui n'étaient pas en France même pendant 10 ans. c'était des jeunes qui venaient d'arriver en France, comme vous, les étudiants, ils étaient là depuis très peu de temps. Ils parlaient parfaitement le français et ils sont tournés vers cette culture locale. Et ils ont dit, nous ne voulons pas être seulement l'église de l'Orient. Nous voulons être aussi une église de l'Est, de l'Ouest, parce que l'église est universelle. Je crois en l'église une, sainte, catholique et apostolique. Et c'est quelque chose, pour cette époque, de tout à fait révolutionnaire qu'ils ont donné ça. Et à côté de ce groupe d'étudiants, il y a un autre groupe, un groupe de Français et d'autres occidentaux qui voulaient, qui se reconnaissaient dans l'orthodoxie. Un certain monsieur Irénée Vinard, un prêtre catholique, et avec tout un groupe de gens, se sont retrouvés avec ce groupe d'étudiants russes et ont posé une question presque incroyable au patriarche, au futur patriarche de Moscou, le chef de l'église russe de l'époque, le métropolite Serge Stargorodski. Est-ce que nous ne pourrions pas fonder une orthodoxie d'expression occidentale, une orthodoxie locale? Et ça a donné naissance à quelque chose, peut-être vous avez entendu parler, c'est un dossier extrêmement complexe, je ne vais pas y toucher, nous avons un éminent spécialiste de toute cette époque, Émilie, avec nous, qui a écrit des magnifiques articles sur le site de l'église, des 3 docteurs, il y a de très belles articles en russe et en français là-dessus. Mais fait est que, et c'est une chose que très peu de gens savent, qu'en 1936, le futur patriarche Serge de Moscou donne la bénédiction à la création d'un exarchat de l'orthodoxie occidentale, avec un rite occidental, avec un monastère bénédictin occidental, avec des textes écrits en français, des partitions de musique traduites, aussi qui s'intéresse aux racines de l'Église avant le schisme, les reliques de tous les saints. Et de nos jours, beaucoup de ces choses semblent tout à fait évidentes. La prière en français, on peut l'aimer ou pas, mais elle n'est pas contestée. Les reliques des saints locaux, c'est quelque chose. Il y a un site de la France orthodoxe, Pravoslavna France, et vous trouvez des centaines de lieux de pèlerinage. À cette époque, c'était vraiment visionnaire. Et le père Vinard était décédé, donc le premier chef de ce groupe, de cet exarchat, c'était Eugraf Kovalevski, devenu Monseigneur Jean. Alors, le destin de ce groupe a été assez compliqué et tragique, et j'en parlerai pas aujourd'hui. Retenons tout simplement qu'à cette époque, notre église de patriarcat a vu qu'il peut y avoir plusieurs expressions, parce qu'à côté de cet exarchat, il y avait toujours l'église russe, comme nous la connaissons en bas, avec les offices en slavon, ça peut coexister. Et juste pour l'histoire, il y a d'autres grandes figures comme Monseigneur le Saint Jean de Shanghai qui ont participé à ce mouvement qui était très ouvert. Et par exemple, aux Pays-Bas, nous avons un monastère qui a été fondé avec l'aide du Saint Jean de Shanghai et qui, jusqu'à nos jours, célèbre entièrement en irlandais. Voilà. Je pense que quelqu'un qui est issu de ce groupe, Monsieur Antoine Blum, a donné la formule qui trouve l'équilibre entre toutes ces positions possibles. Et c'est quelque chose que dans notre paroisse, nous essayons de réaliser jusqu'à nos jours. Il a dit qu'il existe une hiérarchie de valeurs. Avant tout, je suis chrétien. Après cela, je suis un chrétien orthodoxe. Et après cela, j'ai ma culture russe. Et Monseigneur Antoine était russe jusqu'à ses racines. Mais, voilà. Et chacun de nous peut suivre ses réponses. Et je dirais que c'est une question avant tout pastorale. Si un jeune vient me voir et il ne parle pas russe, ben je ne vais pas le rejeter parce qu'il ne parle pas russe. Si quelqu'un... Et nous, dans notre paroisse, il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver, qui cherchent dans l'église un lieu où ils se reconnaissent dans leur culture, dans leur langue, dans leur chant. Nous devons leur proposer ça dans l'église. Si l'église devient quelque chose dans lequel un russe, un géorgien, un grec ne se reconnaît plus, ce n'est plus l'église. Et ça, c'est un équilibre que chacun doit chercher. Et voilà, je voulais vous donner, comme jeune association, juste quelques conseils, quelques conclusions que je trouve importantes pour le travail avec les jeunes. La première chose, c'est que si on travaille avec les jeunes, on travaille pour l'Église et avec l'Église. Si vous faites une association, c'est très bien, mais il faut être étroitement en contact avec l'évêque, avec les paroisses, avec la structure de l'Église. Si les prêtres voient que les jeunes viennent du camp inspirés, qu'ils vont à la communion, ils voient que c'est important. Si vous créez quelque chose à côté, d'extra ou para-ecclésial, c'est beaucoup moins bien. On sert l'Église et ses structures. Il existe beaucoup de choses. Alors, copiez ce qui est bien, mais ne doublez pas. S'il y a des structures qui existent déjà, voilà, posez-vous la question, en quoi nous pouvons être uniques. Voilà, nous ne proposons pas une religion. La foi chrétienne, la foi orthodoxe, c'est un projet de vie. Ça peut toucher n'importe quel aspect de ma vie. Comment je mange, comment je dors, comment je discute avec ma femme et je me réconcilie avec ma femme. Tout peut être touché par l'Église. Et ça, pour les jeunes, c'est très important. C'est cohérent. Voilà. Je dirais à vous, comme diocèse russe, gardez votre tradition russe, vos racines russes. Moi, je suis toujours plein d'admiration. Comment la génération du Père Nicolas, vous avez en 2-3 générations su garder cet héritage russe, c'est très important parce que c'est votre identité. Mais n'oubliez pas qu'une caractéristique de la culture russe, c'est l'ouverture envers les autres cultures. Ça commence avec Saint-Étienne de Perm qui traduit l'évangile vers les langues des petits peuples de la Russie. Ça continue avec Saint-Nicolas du Japon, avec le Saint-Patriarche Tikhon de Moscou qui a béni la traduction de textes en anglais. Donc il faut être enraciné dans sa culture et ouvert à la foi. Personnellement, je vois la langue comme une question pastorale. Ce n'est pas une question de dogme. On peut prier dans toutes les langues et il faut servir les gens dans quelque chose qui les convient. Il faut coopérer avec les autres orthodoxes parce que, et vous le voyez déjà de nos jours, si vous êtes là, je vous donne tout le temps comme exemple, pardon. Vos enfants ne vont pas être très différents des enfants d'origine grecque ou roumaine. Et c'est bien de coopérer avec eux parce qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes questions. Donc il y a le festival par exemple où il y a toutes sortes de forums. Voilà, travaillez ensemble. Ne créez pas des structures lourdes. Comme une association, on peut mettre toute son énergie dans un statut, dans définition des membres, les quorums, les présidents, les comptes rendus, etc. Vous perdrez tous les jeunes. Franchement, les jeunes ne veulent plus être membres de quelque chose, avec un billet, avec un droit de vote, avec des cotisations, ça ne marche plus. Vous avez un bon projet, ils vont venir, ils vont payer, ils vont aider, ils vont tout faire. Mais ne pensez pas, ça ne marche plus. C'est tant pis ou pas, mais ça ne marche plus. Dernière chose, l'Église, avec la petite lettre et avec la lettre capitale, la grande Église, et l'Église doit être un lieu sûr. Si vous travaillez avec les jeunes, parfois ils mettent leur destin entre vos mains. Nous avons un petit groupe d'adolescents et nous terminons toujours avec des chips et du Coca-Cola. Ils parlent des choses très personnelles. Ils doivent avoir la garantie que vous n'abusez pas de ça. L'Église doit être un lieu sûr où les enfants, les jeunes peuvent être protégés et en certitude entre les mains du Seigneur. Donc voilà, c'est mon expérience personnelle, c'était aussi à travers l'expérience des générations du passé. Merci pour votre attention et peut-être vous avez des questions à en poser.
Je vais faire Charmaine, des questions.
Moi, je ne peux pas retenir ma joie de vous remercier d'avoir abordé un point important de l'histoire de l'orthodoxie en France, qui est la confrérie Saint-Potus, qui pour moi est une vision orthodoxe vitale pour l'immigration. Et voilà, puis aussi d'avoir parlé un petit peu de l'église orthodoxe, cette tentative de l'église orthodoxe de France,
qui, à mon avis, aussi est un sujet qui est aussi un peu tabou, qui a du mal à être abordé. Et voilà, je veux juste dire ça, je vous remercie, parce que pour moi, c'est très important, et ça me touche beaucoup que vous en parliez. Voilà, je vous remercie.
Je pense que nous, maintenant, nous sommes à une distance historique qui nous permet de séparer entre les intentions et les faits, et les personnages. Je pense que, et c'est quelque chose qui arrive d'ailleurs assez souvent, il y a quelque chose qui explose. Sur la place de l'explosion, il ne reste plus grand-chose. Par contre, on trouve des fragments précieux à gauche et à droite. Olivier Clément, vous pouvez l'aimer ou pas, mais il est rentré dans l'orthodoxie, dans ce groupe-là. Donc, je pense que nous pouvons maintenant, et on peut le dire de chaque tradition, et des gens, il y a des aspects à l'Institut Saint-Serge qu'on ne peut pas du tout aimer, il y a des aspects de chez le Père Zinkowski, des choses qu'on ne peut pas aimer. Et maintenant, je crois que nous avons le droit de prendre ce qui est utile et laisser ce qui n'est plus utile. Voilà. Et je pense, c'est la dernière chose que je dirais là-dessus, je pense que le problème majeur de cette tentative a été qu'ils sont tombés dans le même nationalisme religieux que les Serbes, les Roumains, les Grecs. Ils ont voulu être des orthodoxes français avec le même acharnement que tous les autres. Et il faut être chrétien avant tout. Et la culture, ça vient après. Mais bon, parlons pas de ça, parlons des jeunes, ou parlons de vous. Est-ce que ça a un petit peu donné des réponses à des questions que vous aviez, ou pas du tout? Ou est-ce que ça a surtout lancé des questions? Oui.
On aimerait bien que ce soit vraiment très très, tout ce que tu as dit soit vraiment très très présent dans l'esprit de tout le monde. Et on aimerait que ce soit présent dans l'esprit de nos prêtres, de nos interniquis, de tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais te demander s'il n'y aurait pas une possibilité de prendre ton PowerPoint là et l'enregistrement sonore et de mettre ça par exemple sur le site de manière à ce que ce soit quelque chose à quoi on pourrait revenir, pas les uns et les autres pourraient revenir et méditer. Parce que tu dis des choses qui sont simples, mais on sent que derrière, il y a chez toi une très très grande et profonde expérience. Et ça, c'est vraiment très très fort.
Alors, je dirais, oui, on peut le faire, mais j'ai très peu d'illusions sur le résultat. Je pense que les groupes de jeunes peuvent être des laboratoires où on peut atteindre un niveau de qualité qui dans une paroisse quelconque n'est tout simplement pas possible. Si on est ensemble dans un camp pendant 2 semaines, 1 mois, on peut arriver à quelque chose qu'on ne peut pas faire dans une paroisse où les gens se voient chaque semaine. Il y a des disputes, des anciennes disputes, des nouvelles disputes, les gens qui chantent faux, les gens qui sont devant dans l'église. Dans une paroisse, c'est la réalité. Je suis d'accord que les prêtres doivent être formés. La plupart de nos prêtres ne sont pas formés au travail pédagogique. Maintenant, des choses changent en Russie, par exemple. Il y a vraiment dans certains séminaires, il se passe des choses magnifiques. On envoie les séminaristes dans les camps. On enseigne la pédagogie. Et par exemple, il y a une résolution du Saint-Synode russe qui dit que dans chaque paroisse, il doit avoir un responsable des jeunes salarié par la paroisse. Bon, la réalité n'est pas toujours ça, mais donc je dirais, on peut essayer de influencer les responsables, mais c'est plutôt important de travailler avec les jeunes, parce que de ces jeunes sortiront des prêtres, des théologiens, des catéchètes qui feront ça. Et maintenant, nous avons un camp aux Pays-Bas que depuis 15 ans. Maintenant, nous avons les premiers enfants qui ont fait tout le camp et qui sortent pour devenir des moniteurs. Et c'est fantastique. Eux, ils portent tout un héritage en eux. Et je suis sûr que de cette génération, il y aura des prêtres.
Donc, il faudrait quand même que tu fasses une conférence, la même ou une autre, mais au séminaire, pour les séminaristes du séminaire.
Avec plaisir. Mais, comme je disais, c'est mon rêve d'organiser un colloque pour le clergé du patriarcat en Europe occidentale pour parler du profil des jeunes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Parce que vous savez tous Là, nous sommes quoi, 20 personnes. Vous savez combien de Russes il y a à Paris?
200.
C'est énorme. Et nous, Père Nicolas, peut-être vous, moi, je connais la situation aux Pays-Bas. L'assimilation culturelle des Russes va très rapidement. Si dans votre génération, voilà, votre père était russe, vos enfants parlent encore russe, vos petits-enfants, je pense aussi. Aujourd'hui, je vois des paroissiens à moi qui sont aux Pays-Bas depuis 20 ans ou 15 ans, et ils ont des problèmes de russe, ils parlent néerlandais à leurs enfants. Donc, si nous ne touchons pas cette génération maintenant, bah, ils seront perdus pour l'Église. Je baptise énormément d'enfants, je ne les vois plus jamais. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose que nous pourrions, que nous devons faire comme mission intérieure dans la diaspora, la nouvelle diaspora russophone. Oui.
J'ai quelques questions et quelques commentaires, mais si vous me permettez, je veux parler russe parce que sur le sujet plutôt théologique, je ne peux pas m'exprimer en français, je suis vraiment désolée. Во-первых, спасибо вам большое. Je ne sais pas comment vous allez faire la traduction.
Я вкратце перескажу перед ответом.
Вот. Да, спасибо вам, что вы приехали. И я очень согласна с Эмилией, что вы затронули самые такие острые стороны того, как можно организовать жизнь молодежи. И я с вами согласна по всем вопросам. И хотела бы вот, знаете, но вот вопрос, например, вы говорите про активность, про то, что молодые не любят большие структуры, но любят просто быть в большой общине, ну и быть в обществе.
Mm-hmm.
То, что вы вот привели пример насчет Фейсбука, что как бы я не хочу принадлежать к ассоциации, но да, есть вот суаре, ну, есть встречи, я на нее пойду. А мне кажется, что это отчасти это подход, есть активный подход, когда человек хочет внести какую-то свою лепту. И есть пассивный подход, когда человек хочет только брать.
Это то же самое потребительство.
Да, вот. И вот мне кажется, что это очень достаточно, это насущный вопрос в работе, в любой работе с любой молодежью, и в нашей, ну вот в работе с православной молодежью, неважно. Вот хотелось бы как-то вот этот вот подход как-то сделать участие человека настолько простым, что, в общем-то, ничего по большому счету от человека не требуется, кроме его вот чуть более активного какого-то желания немножко взять на себя, ну, наверное, ответственность какую-то небольшую.
Да.
И это очень сложно. Вот. Еще у меня такой вопрос. Я абсолютно с вами согласна по поводу маркетинга. Просто я сейчас занимаюсь этим в как бы вне церковной жизни, и мне кажется, что вообще в нашей жизни очень многие вещи определяются маркетингом. И вот, например, даже посмотреть на сегодняшний вечер и на все наши вечера, насколько чем ярче мы сделаем promotion campaign, тем больше придет людей. И с одной стороны, это здорово, что так работает. С одной стороны, это здорово, что работает, но с другой стороны, как бы оказывается, может быть, возможно, без этой кампании рекламной сложно людей привлечь. И это значит, что, может быть, по большому счету людям, ну, может быть, не... Это не стоит для них, может быть, на первом месте все, чем мы там занимаемся, и как бы, и, может быть, наши идеи и наш посыл, он не такой правильный. Особенно здесь, вот, мне кажется, это сложно, потому что, как вы правильно тоже сказали, что русские приезжают, русские, неважно, люди живут как бы в своем, ну, своей жизнью спокойной, и, например, прийти сюда, это всегда, особенно в пятницу вечером, это всегда отказ от чего-то другого.
Давайте сперва я отвечу. Alors, je fais un résumé. Le premier point, Aline était complètement d'accord sur tout. Et en même temps, elle disait, est-ce que vraiment c'est Le fait que les jeunes ne veulent pas s'engager dans les grandes structures, veulent participer mais pas vraiment s'engager, elle est aussi un signe de cet esprit de consommation et un manque de responsabilisation. Et comment on pourrait quand même responsabiliser les jeunes un petit peu plus? Et la deuxième question concernait le marketing. En effet, elle travaille dans ce domaine, dans sa vie civile, donc elle voit à quel point c'est pertinent. Même pour les soirées des jeunes, quand on fait une publicité plus pointue, ben, y a plus de gens qui viennent. Mais de nouveau, est-ce que c'est pas un signe de mauvais engagement en quelque sorte dans l'église? Je suis complètement d'accord, on en souffre. Je peux vous donner un exemple très simple. Nous avons une association des jeunes orthodoxes aux Pays-Bas et nous avons un camp. Pour le camp, nous trouvons toujours des volontaires. Il n'y a aucun problème. Trouver un secrétaire ou un trésorier pour l'association, c'est terrible. Vous avez raison, c'est un de ces problèmes d'échelle. Il n'y a plus d'obédience à l'Église. Parce qu'au Chagne, traditionnellement, le service de l'Église, c'est une obédience. Je me soumets à l'Église et son rythme. Là, les gens disent non, je soumets à l'Église, je mets l'Église là où ça me convient. Et ça ne me convient pas avant de soir, je ne viens pas. Le problème est qu'on ne peut pas leur faire la morale et dire. Il y a certains prêtres, par exemple, qui disent à l'Église, chers fidèles, vous ne venez pas assez souvent à l'Église. Un, ça ne marche pas. Deux, il dit aux gens qui sont venus à l'église. Ça ne marche pas. Donc culpabiliser, ça ne marche pas avec ces jeunes. Moi, je pense que, et c'est plus global, tout ce qu'on donne aux enfants pendant leur jeunesse et leur adolescence à l'église, c'est comme un énorme sac de bagages avec lesquels ils vont partir dans l'adolescence, dans les années difficiles. Parce qu'avant, les gens se mariaient tout de suite, voilà, à 18 ans, et c'était un nouveau chapitre, là. Entre 16 et 35 ans, on est dans une espèce de flou de vie, de l'amour, de tout, c'est long. Et ben voilà, on voit très souvent que les gens qui ont reçu un gros sac de bagages, finalement, reviennent. Quand ils ont trouvé un travail, une famille, des enfants, etc., ben, tout d'un coup, il y a ces souvenirs d'enfance qui reviennent. C'était tellement important. Ou il y a des vraies questions de vie. Quelqu'un tombe malade, il y a une crise dans la vie, mais ils ont du bagage et ils vont à l'église. Donc moi je mettrais, si j'ai du temps, je donne plutôt mon temps à la création d'un vécu. Qui fait quelque chose dans ce sac, que la construction de structures. J'ai écrit énormément de statuts d'organisation. J'étais secrétaire de 50 000 organisations de jeunes. C'est important, mais c'est mieux qu'il y ait un petit groupe de gens vraiment engagés qui le font. Ensuite, vous allez voir que dans la vie, ces jeunes vont dire, oh là là, Vietka. C'est une sœur de Père Nicolas. Ma femme en parle. Ah, elle était toujours en train de faire des choses pour nous. Elle a tellement fait pour nous. On a cette image d'une personne qui était différente, qui faisait ça pour nous. Et ça, les jeunes, ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent très bien parce que personne autour fait quelque chose vraiment pour eux. Ils font ça pour leur salaire ou pour leur ego. Et bien là, il y a quelqu'un à l'église qui faisait ça à cause du Christ. Donc, vous avez raison. Mais je pense qu'on peut guérir cette maladie plutôt par notre travail qu'en expliquant ou en imposant. C'est très frustrant parce que c'est vraiment une attitude très négative. Très négative, mais je pense qu'il faut leur faire goûter à l'Église comment elle est vraiment. Et là, ça restera. Et donc c'est pas vraiment une réponse, mais c'est pour ça que j'ai mis ce point. N'investissez pas trop de temps. Il faut mieux un petit groupe de jeunes vraiment engagés. Et nous avons Facebook maintenant. C'est super, en quelque sorte. On peut envoyer des invitations. On peut faire participer. Et l'Église comme communauté, Facebook peut être deux choses pour moi. Ça peut être une amitié virtuelle, juste pour avoir quelque chose. Mais ce que nous voyons au camp, ce sont des jeunes qui viennent de partout, ils se connaissent, c'est des vrais amis. Et pendant toute l'année, ils s'écrivent sur Facebook. Là, Facebook n'est pas la source, c'est un fruit, c'est le reflet d'une amitié réelle, et c'est très bien. Donc, vous voyez, donnons-leur quelque chose de vrai, et le reste suivra. Mais c'est très difficile dans la pratique. Oui. Mais aussi, pardon, dernière chose. Nous avons le bonheur aussi que de nos jours, l'Église a reconnu le travail pour les jeunes. Pourquoi il y a eu une ACER séparée comme structure? Pourquoi il y a une MGO séparée de toutes ces structures? Parce que l'Église ne faisait rien. Maintenant, dans chaque diocèse, il y a des gens qui font du travail avec les jeunes. Ça a été intégré, et donc vous avez beaucoup moins besoin d'une structure formelle. Vous avez l'évêque, vous avez le diocèse, vous êtes dans le diocèse, ça vous donne déjà une cohérence énorme. Vous n'avez pas besoin d'être cloisonné.
Après, si je peux me permettre, à propos des évêques, à Paris, des évêques, il y en a 10. Donc là, c'est vrai que vous êtes venu pour parler à l'association des personnages, mais il y a aussi nos amis de... Ben, par exemple, nos amis de FGO, il y a comme si on veut faire quelque chose de... pour tous les orthodoxes. Du coup, on se heurte un peu à qu'il y a l'évêque de Constantinople, il y a l'évêque de Roumanie, il y a des mecs de... Donc après, comment dans ce cas-là, si on veut parler à tous les orthodoxes, parce que moi j'ai l'impression que les jeunes maintenant, les gens de ma génération, ils sont moins sur qui est dans quelle église. Donc voilà.
Il y a les deux, je pense que ça a un sens d'avoir un groupe de jeunes dans votre diocèse, parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais ailleurs, et en même temps, il faut que les éléments actifs de votre groupe soient en contact avec les éléments actifs ailleurs. Et là, de nouveau, en général, si tu fais un bon travail, l'évêque a donné sa bénédiction et son soutien. Il ne faut pas s'attendre à des miracles des évêques, ils ont beaucoup de choses à faire, mais en général, si vous faites un bon travail, béni, et c'est déjà très bien. Donc, et de nouveau, maintenant, nous avons des assemblées des évêques. Mm-hmm. Officiellement, ils travaillent ensemble. Il y a même quelqu'un de responsable pour les jeunes, je crois. Mais de nouveau, si vous allez dans ce niveau des structures officielles, vous allez beaucoup vous fatiguer. Il y a beaucoup... Si vous vous rapprochez trop du niveau pan-orthodoxe, il y a beaucoup de politique. J'étais dans Sidesmos pendant 10 ans. J'étais très content d'aller dans une paroisse et de m'occuper des gens vivants.
À ce propos, est-ce
que... Oui, tout en bruit.
Ouais, justement, j'allais rebondir là-dessus. Je voulais vous poser la question. Quelle a été votre expérience? On a vu que vous avez une expérience dans Sidesmos. Vous avez parlé beaucoup de mouvements de jeunesse qui s'occupent des jeunes, peut-être adolescents ou enfants. Mais il y a des mouvements de jeunesse, je dirais, quasiment adultes. Et vous avez fait partie de Sidesmos. Quels ont pu être les buts de Sidesmos? Quelle est votre expérience dans Sidesmos? Qu'est-ce que vous pourrez nous faire partager d'intéressant?
Alors, Sidesmos, c'est une structure. Il existe dans le monde beaucoup de mouvements de jeunesse. Et en 1953, une fédération a été créée par laquelle ces mouvements se rencontrent, coopèrent. Et en fait, l'idée, c'est le père Zenkovski, déjà dans les années 20, qui était en contact avec les pédagogues en Roumanie, en Serbie, en Grèce, avec toute la diaspora, toutes les églises locales. Il était en contact avec les pédagogues. Il y a eu des congrès de pédagogues orthodoxes en 1936, par exemple. Bon. Et pour moi, deux choses sont importantes dans Sidesmos. C'était toujours été ma ligne. Nous savons tous que l'Église est universelle, mais c'est vraiment très riche d'être avec les orthodoxes de différents pays et de sentir, de le réaliser. Et là aussi, de voir que cet héritage culturel, c'est pas seulement un problème, c'est aussi une richesse. Où il y a une soirée avec les Grecs qui dansent et les Russes qui chantent. C'est fantastique. On vit tout d'un coup et l'universalité de l'Église. Deuxième chose, c'est l'échange d'expertise entre les pédagogues. Nous avons fait un projet en Russie, par exemple, il y a 10 ans, sur les camps. Il y avait des organisateurs de camps de jeunesse de 10 pays différents, d'Amérique, de Grèce, de Russie, pour parler des camps, des problèmes de discipline. Est-ce qu'il faut des camps pour les filles et les garçons séparés ou pas? Toutes ces questions. Et Syndesmos, alors j'ai quitté Syndesmos en 2003 et malheureusement la génération après a plutôt voulu faire de la politique inter-ecclésiastique et Syndesmos de nos jours a presque disparu. Donc, c'est quelque chose d'assez tragique, vraiment ça me fait beaucoup de mal. Il existe un livre que je peux vous donner sur un petit peu cet héritage. Et moi je pense qu'il y a deux choses importantes, nous devons découvrir l'universalité de l'Église. Et nous devons, c'est un petit peu bête qu'on n'échange pas notre expérience. C'est pour ça aussi que j'étais tellement heureux d'être invité ici et de partager avec vous quelque chose. Voilà. Oui, vous aviez encore une troisième question. Je ne sais pas, en termes de questions, pour les horaires, c'est vous qui...
Pour les horaires, normalement, c'était 1h30, donc c'était très bien, le timing était très bien respecté. Maintenant, comme il y a des questions intéressantes, je pense que ceux qui sont intéressés par les questions peuvent rester, et ceux qui ont des choses à faire peuvent partir. Je pense qu'on va fonctionner comme ça.
Moi, tout me va.
Sachant que ceux qui sont intéressés par les questions, il ne faut pas que ça traîne jusqu'à minuit.
Ceux qui partent, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés.
Et voilà. c'est qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire.
Когда мы говорим о молодежи, на самом деле мы говорим о молодежи в общем, но по большому счету можно, мне кажется, видеть, что молодежь – это как минимум 3 группы. Я бы выделила это дети. Я не буду говорить по возрастам, это подростки. Самая, по-моему, такая уязвимая и ранимая группа. И это вот люди примерно, которые присутствуют здесь. Вся оставшаяся
молодежь. Donc, on parle de la jeunesse en termes généraux, mais en fait, si on parle de la jeunesse, je pense qu'on peut distinguer au moins 3 groupes. Ce sont les enfants, les adolescents et le reste, nous, les jeunes professionnels, sans nommer des âges.
Потому что если с первой и третьей группы, в принципе, ясно, что делать, для детей что-то организуется, как правило, всегда для молодых уже... тоже что-то организуется. А вот с подростками, по-моему, это всегда это очень сложно, потому что, например, лично я не понимаю, что делать вообще. Это то самое время, мне не приходится, но тем не менее хотелось бы, это очень интересно. Потому что, мне кажется, это то самое время, когда человек из церкви уходит, как правило, когда мы его теряем, на какое-то время, или, может быть, навсегда. И вот как разговаривать с этими людьми, потому что вот с детьми мне очень нравится, как я слушала, как Антоний Сурожский когда-то рассказывал, как он просто рассказывал, спрашивал ребенка на первой исповеди, а что ты знаешь о Христе, а хотел бы ты с ним дружить, а ты готов быть ему самым лучшим другом, то есть в таком ключе. А вот как говорить об этом с подростками, это ваш вопрос.
Si les choses sont plus ou moins claires pour la première, le troisième groupe, je trouve ça difficile de savoir qu'est-ce que je dois dire aux adolescents qui sont le groupe le plus vulnérable, qui sont souvent vraiment au point de quitter l'église, mais je ne sais pas quoi leur dire. Si pour les enfants, j'ai l'exemple de Monsieur Antoine Blum qui raconte comment la première confession, il demande aux enfants, alors est-ce que tu connais le Christ, est-ce que tu voudrais bien être son meilleur ami, etc. Mais pour les adolescents, je ne sais pas. Alors, je peux partager l'expérience que nous avons en notre paroisse. Nous avons chaque dimanche le catéchisme. Avant tout, je le dis, le père Zenkowski a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et son élève, Sofia Kulomzina, dans son livre sur les enfants et l'Église, a donné un schéma développé par le père Zenkowski où pour chaque groupe d'âge, il donne des caractéristiques. Il donne des sujets à aborder et les moyens de les aborder. Et je peux vous partager avec vous un article. Récemment, une pédagogue russe à retravailler ce schéma, parce qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus les jeunes de 1925. Vraiment, les jeunes deviennent adultes beaucoup, beaucoup plus vite. C'est différent. Donc, ce schéma a été retravaillé, mais c'est très utile parce que la même histoire biblique doit être racontée différemment en enfant de 5 ans et de 8 ans. C'est très clair. Voilà. Dans notre paroisse, oui.
Вы
знаете такую книгу «Наша церковь и наши дети», «Наши дети» Софьи Кулумзиной. Это была помощница Василия Зинковского. И он составил такую схему по возрастам. Какие характеристики какого возраста, какие предметы в каком возрасте, как преподавать и так далее. И эта схема там приводится. И у меня есть статья современного педагога в России, который приспособил эту схему к нашим поколениям, потому что молодежь меняется, дети осваивают вещи по-другому. Вот. И dans notre paroisse, donc, après la liturgie, il y a trois groupes de catéchisme, 4 à 6, 7 à 9 et 10 à 13 à peu près. Et ça marche bien. Mais on avait compris qu'après 13-14 ans, ça ne marchait plus, cette formule après la liturgie, donc ça ne va pas. Et donc maintenant, deux fois par mois, pour les enfants de 13 à 17 ans, nous faisons la chose suivante. Ils viennent au vigile, le samedi soir. Après l'évangile, ils reçoivent la croix avec l'huile et ils quittent l'église. Ils font le repas eux-mêmes, ils cuisinent, ils font les courses avant, ils s'organisent Facebook, etc. Ils payent eux-mêmes, ils font des courses, ils font un repas, nous mangeons ensemble. Et ensuite, nous avons un programme. Quelques jeux, quelques discussions, des choses éthiques. Nous avons volé un programme chez les protestants pour certains thèmes. Nous faisons toujours une étude biblique, vraiment lecture à haute voix, discussion, réflexion, prière, écriture. Et c'est très fort, ça marche très bien. Et à la fin, une demi-heure avec des chips, du Coca-Cola. Et ça marche très bien. Donc c'est possible, mais il faut des gens qui savent les engager. Mais donc il y a des formules qui travaillent et là nous pouvons nous aider mutuellement et dans les camps quand même ça marche aussi. Une chose que je fais souvent dans les camps quand je fais le catéchisme, c'est que je monte des fragments des films parce que ça touche tout l'homme. D'ailleurs le marketing, ils font ça tout le temps, ils montent des petits fragments aussi. Donc voilà, il y a des méthodes, on peut le faire. Я скажу по-русски, у нас в храме есть подростковая группа 13-16. Раз в две недели они приходят на субботнюю службу. После Евангелия и после елея помазания они уходят, готовят вместе ужин. Они сами закупились, они сами оплачивают. Потом мы кушаем все вместе. Кто-то из священников обычно присутствует. И после этого у нас программа, мероприятия, игры, дискуссии. Мы кое-что взяли у протестантов, кое-что сами разрабатываем или дорабатываем. Потом в маленькой часовне библейский кружок. Они читают, обсуждают, пишут, молятся. И после этого полчаса чипсы, кока-кола, родители забирают. И это работает. И on voit des fruits extraordinaires, il faut dire. Extraordinaire. Donc, il y a des méthodes. Вы заняли позу уходящего.
Нет, но мне интересно тоже. Нет, ну продолжайте. Во-первых, спасибо тебе большое. Я хотел сказать, что хотел один из России приехавший сказать, что там может быть.
Давайте, послушаем. Конечно.
Спасибо большое за интересную лекцию. Очень интересно. Вот хотел то, что вы рассказывали.
Merci pour ce que vous avez dit. Je voudrais répéter ce que vous avez dit à travers mon expérience personnelle.
Мы этим летом познакомились с проектом «Общее дело» называется. Вот. Проект занимается возрождением ветеранных храмов на севере России. Вот. Ему 7 лет, он начинался с 2 человек, на сегодняшний день в нем порядка. Он в этом году принял участие порядка 350 человек.
Il y a 7 ans, avec 2 personnes, nous avons commencé un projet qui s'appelle l'Action Commune. Et le but de ce projet, c'est de restaurer des églises en bois du nord de la Russie. Et maintenant, 7 ans plus tard, nous sommes au moins 350 personnes à y participer.
И то, о чем вы рассказывали на тех слайдах, насколько это действительно естественно работает. То есть туда едут не только уцерковленные люди, но только которые, может быть, или совсем еще ничего не знают о православии, или узнали немного, ну и те, которые знают уже об этом много. Но за счет того, что по большому счету это получается такая туристическая поездка, поначалу кажется, но это получается очень такой естественный и простой подход. И то, о чем вы рассказывали, об играх компьютерных, да, о природе, то есть о том все, что утеряно, когда люди едут туда, они вместе трудятся, вот, стирают надписи всякие нехорошие, там, что-то там, где-то крышу там перекрывают, работают с местными жителями, вот, то это людям помогает за неделю, за одну буквально, совершенно вернуться в другую обратно.
Et nous voyons que ce ne sont pas seulement des gens d'église qui participent à ces projets, ce sont des gens qui ne sont soit pas du tout de l'église ou qui ont juste des notions les plus superficielles de l'église, mais tous ils y vont. Et ça confirme ce que vous aviez dit sur le contact avec la nature, avec la vraie vie, le départ des choses virtuelles. Ils passent une semaine ensemble à travailler, à enlever les mauvaises inscriptions des églises, à recouvrir les toits, à travailler ensemble avec la population locale aussi. Et nous voyons qu'en une semaine, il y a des choses, des changements très très profonds qui s'opèrent.
У меня с собой случайно оказалось, что там есть
букет, если я себя
пущу тогда, чтобы посмотреть, как это все выглядит. А так очень-очень много людей, очень много детей в Англии ездят. То есть там достаточно такая молодежная и люди, возвращаясь обратно, то есть как раз получается вот та община, вот, которая вот, ну, такое братство на самом деле, обмениваются, то есть такими возвращаются друзьями на самом деле. И вот благодаря этому, опять же, возвращаясь к своему личному опыту, то есть я это весной мы поехали первый раз. Это очень сильно помогло вот нам сейчас на пути выздоровления. Потому что, хотя на самом деле, ну, по большому счету, все происходит очень естественно, да, там без какого-то нам дают вот, куда ехать, мы поехали и вернулись совершенно другие. То есть это тоже вот как опыт. Возможно, что это даже больше не столько тем храмам нужно, которые там.
J'ai deux brochures par hasard avec moi qui montrent ce projet et c'est quelque chose qui se fait tout à fait organiquement, naturellement, et ça m'a beaucoup aidé moi dans mon chemin personnel de rentrer dans l'église, de conversion et nous voyons à quel point c'est utile pour ces gens, peut-être même plus utile pour les participants que pour les gens qu'on aide là-bas à faire les églises. J'ai dit au début que je ne parlerai pas beaucoup des méthodes pratiques. Si le noyau dur un jour a envie de faire un brainstorming là-dessus, je serais tout à fait heureux de le faire. C'est juste là aujourd'hui, je veux voulu parler des questions de fond. Я сегодня не говорил о методах работы, потому что их множество. Я хотел говорить о каких-то глубоких принципах, но буду рад когда-нибудь обмениваться мнениями по поводу вот с вашей центральной группы, по поводу форм молодежной работы. Et en Russie, il y a vraiment des merveilles en ce moment. Il y a vraiment dans des trous les plus perdus, il y a des choses fantastiques qui se font. Donc là aussi, il y a vraiment à puiser. Surtout maintenant, et en 2000.
Mais maintenant, à ces jours-là,
oui,
hier, il y a le forum orthodoxe de la jeunesse orthodoxe en Russie.
Et concrètement, d'ailleurs, quand Silesnos a arrêté de faire ces choses, il y avait un prêtre en Russie qui a dit ça suffit à Kazan. Et en 2009, il a organisé lui-même une rencontre des responsables de jeunes de différents pays, et j'ai participé aussi, complètement spontané. Il a trouvé de l'argent, il a trouvé tout, et il veut refaire ça. Donc l'année prochaine ou un jour, il y aura de nouveau une espèce de rencontre des responsables de jeunes à Kazan, et peut-être vous pouvez aussi y participer. Je vous tiendrai au courant. Voilà.
Bon.
Mais si plus de questions, on va peut-être laisser sans poser le père Hélio, parce que bon, mais on le remercie encore une fois. Merci beaucoup.